militant du poids média de la campagne électorale municipale portait sur le maire Labeaume.
Même pas sur ses idées, sur lui-même.
Oui, sur lui-même, sur lui-même. Et 89%. Et donc, Jean-François Dumas, qui est le président d'Influence Communication, disait dans le Journal de Québec, aussi bien dire que c'est une course monolithique, parce qu'il y a un candidat dont on parle dans les médias, les autres n'existent à peu près pas. En fait, les autres n'existent que dans la mesure où la bombe veut pas leur parler. C'est le cas, entre autres, de Lionel Bonaventure.
C'est parce qu'il y a des idées, lui, il a sorti une plateforme de comme 40 pages, je pense, puis Labeaume se refuse totalement, lui, à avoir une plateforme.
Oui. Mais parce que les gens ne le lisent pas.
C'est ça. Ouais. Ma bande de journalistes paraissait, vous allez même pas le lire.
fait que c'est ça, c'est très révélateur. Et ça se passe de commentaires, en fait, c'est de la campagne à Québec. C'est très clairement, on se dirige vers un couronnement, dans tous les sens du terme. Reste à voir, effectivement, là, s'il y aura... ou pas bataille dans les quartiers, mais bon, ça va concerner quoi, 30% des électeurs, quelque chose comme ça. N'empêche, comme on l'avait souligné, y a des groupes qui essayent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu dans ce contexte-là pour essayer de faire valoir d'autres perspectives que ce qui ressort dans les médias, ce dont les partis veulent bien parler. On a vu il y a quelques semaines le regroupement des arbres. En fait, c'est des comités de citoyens qui veulent sauver des boisés. Parce que dans la frénésie de développement, on veut raser pas mal tout ce qui reste de boisés et de...
Ben, ça prend de la place, des arbres, là.
Ben, oui.
On peut pas construire des condos, il y a des arbres.
C'est ça. Ouais. Et donc, il y a ça qui est sorti. Et là, il y a les comités logements, les associations de locataires qui s'apprêtent à sortir là, quelques reprises pendant la campagne. La première fois, ça va être le 5 octobre. Et là, tenez-vous bien, le 5 octobre... C'est quoi le 5 octobre? C'est la journée mondiale de l'habitat. Et pour l'occasion, oui, il n'y a personne qui le sait, c'est super cool. C'est le premier lundi d'octobre. En fait, c'est depuis une... Mon Dieu Seigneur, je sais même pas quelle date. N'empêche que le 5 octobre, donc lundi, dans ce contexte-là, il y a plusieurs... Ben, ça va être souligné partout sur la planète, notamment en Afrique du Sud, c'est toujours très fortement souligné, mais aussi au Québec, comme à chaque premier lundi du mois d'octobre. En fait, ce qui se passe, c'est que la Société d'habitation du Québec, là, l'organisme qui construit et gère les logements sociaux au niveau provincial, a décidé de se réapproprier cette affaire-là. T'sais. Ils font tout le temps des affaires autour du 5 octobre, et les comités logements, les associations de locataires trouvent ça... un peu so-so, mettons, mais qui ont décidé d'eux aussi de commencer à sortir sur cette question-là. C'est quand même pas pire. Au départ, c'était connu comme la journée anti-éviction, puis là, c'est rendu que la SHQ s'en sert pour faire la promotion de ces programmes de développement. Il y a comme un problème. Et donc, au Québec, il y a plusieurs organismes qui vont se mobiliser aux quatre coins de la province. Ils ont un gros rassemblement à Montréal. Puis là, on parle de... ça va plus loin que les suspects habituels, là. C'est quand même spécial. Il y a Amnesty International, section canadienne francophone, qui veut sortir sur cette question-là. Bon, le Fonds d'action populaire en aménagement urbain, le FRAPRU, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, le RECLAC, et l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Femmes autochtones du Québec, le regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec, puis le réseau Solidarité et Itinérance. Tous ces groupes-là, en tout cas, vont se rassembler à Montréal et dans certaines régions de la province pour se mobiliser puis ramener la question du droit au logement, en fait, à l'avant-scène. À Québec, la Coalition pour le droit au logement a décidé finalement de sortir sur ces enjeux-là et de les relier, en fait, à la campagne électorale municipale, parce que les villes, on le sait, ont quand même des mandats au niveau de l'habitation. Et un des mandats qu'ils ont, qui est très important, c'est, d'après sa charte, entre autres, la Ville de Québec doit s'assurer de la salubrité des logements sur son territoire. Elle a effectivement un règlement sur la salubrité. Il y a des inspecteurs. L'ennui, c'est que c'est pas connu du tout. Et donc, c'est le genre de truc que les groupes communautaires, les groupes populaires veulent souligner le 5 octobre. Pour l'instant, on est au tout début de la campagne des comités logements. Là, fait que ça va être le 5, une distribution de tracts dans Saint-Roch et une bannière aussi qui va être posée là, pour souligner le droit au logement. A priori, il devrait peut-être avoir des textes de publier pour demander à ce que les candidats prennent position, mais ça va se poursuivre tout au long de la campagne électorale. Il va y avoir une semaine d'action aussi en octobre, là, après l'action de grâce, il va y avoir des actions dans différents quartiers. Il devrait avoir aussi, tout le mois d'octobre, un peu partout au Québec, là, des actions sur le code du logement, là, justement la question de la salubrité. Et finalement, le 24 octobre, en Hauteville, il va y avoir une grande manifestation là, des voisins, pas des tours, pas d'autres tours. Et c'est sur le développement, en fait, du centre-ville pour dire que ça prend du logement social, ça prend des espaces verts et ça prendrait un petit peu moins de circulation automobile. Donc, c'est des dossiers qu'on va suivre, mais déjà, le 5 octobre, il va y avoir ça. Si vous voulez en savoir plus, là, il y a un long texte sur le site du Frappru, un appel national par plusieurs groupes qui fait le tour, là, des problèmes de logement, là, en regard des questions internationales, parce que, dernière chose à souligner, faut savoir que le Canada et le Québec adhèrent à un pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels depuis 1976 et l'ONU, ça fait donc deux fois, en 98 puis en 2006, l'ONU critique, envoie des critiques sévères et des recommandations au Canada, notamment en matière de logement. On dit que c'est la question de l'itinérance au Canada est une urgence nationale et que ça n'a pas de crise de bon sens que dans... Excusez-moi. Et ça n'a pas de bon sens que dans un pays riche comme le nôtre, il y a une augmentation finalement du nombre de sans-abri. Et effectivement, les représentants de l'ONU qui viennent sont toujours un peu médusés de voir que les écarts, les inégalités s'accroissent au Canada, malgré tout ce qu'on pourrait en penser de ce beau pays, le plus meilleur pays du monde. Sur ce, on a de la musique, hein?
Oui, on change de registre. On s'en va avec un groupe montréalais qui est en congé présentement, mais bon, on espère qu'ils reviendront. On y va avec Jeunesse apatride avec la pièce « À ma révolution » sur les ondes de CKIA 88.3.
Alors, nous sommes de retour, toujours à votre fait, toujours sur les ondes de CKIA, le 88.3 à Québec. Et ben là, on va parler des mauvais coups du gouvernement. En fait, ce qui se prépare, dont on a entendu parler en fin de semaine, au Conseil général du Parti libéral du Québec, comme plein de belles idées qui sont sorties.
Ouais, c'est ça, c'est les jeunes, c'est les militants du Parti libéral du Québec qui étant réunis en congrès, je pense. Il était réuni en conseil général ce week-end dernier à Drummondville. Quelques centaines de militants libéraux votant en faveur d'une résolution visant l'imposition de la scolarité au collégial.
Ouais, c'est ça. C'était kiff-kiff pas mal.
Ça, puis là, il y a eu plusieurs réactions dans le milieu de l'éducation, entre autres la FEC qui dit que ce serait un recul économique et social historique. Dit présentement, 70% des étudiants des cégeps travaillent en moyenne 17,5 heures par semaine. Ça leur demanderait parfois d'allonger les études d'un trimestre ou deux, ça, le parcours serait plus long si lorsque des récits seraient imposés. Du côté de la CSQ, ils disent que toutes les études à quelques... quelques exceptions près, montrent que les grosses scolarités sont des freins à l'accès, puis ça demande, le Québec aura bientôt besoin de combler des milliers d'emplois, dont plusieurs techniques. Dis pourquoi, si on changerait de jeu, si on a besoin d'avoir de main-d'œuvre, puis il veut limiter l'accès en même temps. En tout cas. Ça, c'est pas la première fois qu'on se rend compte que la logique, ça n'est pas très présent de ce parti-là.
Il y a aussi l'Association pour une solidarité syndicale étudiante qui parlait de mobilisation si jamais ça arrive, je crois.
Ben, dans ce truc-là, ils n'en parlent pas, mais qu'eux autres, les libéraux justifient leur décision en disant qu'il y a une crise économique. Oui, il y a une crise, mais les autres, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas la classe moyenne de payer la note. Ça va juste nuire à l'accès aux études. Ça a plus l'air d'une décision idéologique que plutôt d'une décision...
Ben, dans les faits, c'est de profiter d'un déficit conjoncturel pour effectivement
pelleter.
C'est dans le fond, on entend les libéraux chialer contre le fait que ça coûte pas assez cher au cégep, mais au cégep, quand le collège sur Xavier Arnaud, la haute direction se partage une belle somme de 2 millions de dollars pour les salaires. Puis ça, heureusement, il n'en parle pas.
Non, c'est ça. Ceci dit, il y a à peu près tous les analystes politiques qui disent que la majorité était tellement faible sur ces quelques voix là. Il y en avait genre 127 pour, 100 quelques contre là. Et c'est ça, la majorité était tellement faible que probablement qu'ils l'appliqueront jamais, que ça ressemble plus en fait à un ballon pour faire passer le reste. Regardez jusqu'où on pourrait aller.
Mais c'est ça, en fait, à chaque congrès du Parti libéral depuis qu'ils ont été élus, depuis Charest, à chaque congrès, ils arrivent avec des positions choc, puis ils passent de quoi d'un peu moins pire. Oui. Ça passe toujours bien mieux que d'arriver avec un peu moins pire tout seul. Là, ça a l'air, c'est ça le truc choc.
Un peu moins pire, ça, toi, t'en as là-dessus, hein?
C'est dans la même veine, là, tu sais, je veux dire, on est rendu, là, au point où ce que, il y a un an, là, c'était la crise économique, c'était comme la grande trêve qu'il fallait faire, fallait comme s'en aller vers, comme, on aide tout le monde, il n'y a pas question, dans le fond, qu'on impose plus, qu'on fasse plus de fardeaux, etc., sur le dos des gens. Mais là, en tout cas, je pense que c'est pas mal terminé, puis ou en tout cas, ça va l'être officiellement en 2010, à peu près, là. Je veux dire, ils ont déjà... Si leur projet tout en entier passait, ce serait effectivement catastrophique, mais on s'entend qu'il va en passer, ça, c'est certain. Là, on voit que les plans de relance sont assez largués, puis on revient vite à leurs anciennes amours, soit les hausses de tarifs, puis seulement les hausses de tarifs, en fait, dans les services publics. Bref, on revient à la marchandisation, puis on revient, à moins que ce soit juste un rappel, dans le fond, qu'ils ont jamais changé leur programme, de marchandiser tout ce qu'ils pouvaient jusque-là, mettre un petit baume sur ces inégalités sociales. Puis, c'est ça, depuis qu'on nous rabat les oreilles avec la crise économique, puis qu'il faut agir à tout prix, franchement, j'ai pas vu une grosse différence sur qu'est-ce qu'ils ont mis en action pour concrètement aider les gens, là, tu sais, je sais pas, moi, en gros, là, les affaires que j'ai vues, il y en a comme deux, là, qui me marquent, là, ben franchement, là, c'est comme l'asphalte, puis...
Le béton.
Ouais, c'est pas mal la même chose, là, tu sais, c'est pas mal les mêmes compagnies qui s'en mettent plein les poches.
C'est la catégorie 1, ça. La catégorie 2 va venir après.
Mais la catégorie 2, de toute façon, c'est juste de nouveaux incitatifs pour aider les autres entreprises, là. Je veux dire, c'est comme on prend une solution qui est dans le fond mise en œuvre à chaque budget, à chaque année. Je veux dire, il y en a tout le temps des nouveaux incitatifs fiscaux pour les entreprises puis pour les plus riches. Qu'on pense juste à l'année passée ou l'autre année d'avant où ils ont commencé à abolir la taxe sur le capital. Je veux dire, on donne déjà un incitatif fiscal aux entreprises comme aussi on se prive d'un revenu stable et d'un revenu constant pour que justement assumer le coût des services publics. Déjà que cette taxe-là était rendue à un niveau assez, assez ridicule par rapport à ce qu'elle a déjà été. On réutilise l'argument de la crise pour dire on va aider à la relance en aidant les entreprises, mais on continue, une fois que la crise est terminée, de toute façon.
Il y a certains secteurs où ça va très loin. On a vu, là, cette année, là, il y a eu des rapports sur les minières où est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est nous qui les payaient pour qu'ils extraient
Ben, c'est nous qui payons les compagnies forestières pour qu'elles reboisent, qu'elles extraient le bois aussi. On leur donne le bois, là. Il y a aucune redevance sur la forêt, là. Zéro, rien, là, à part ce qu'ils nous disent des emplois. Mais c'est quoi, moi, il me semble que tout ce que j'entends, c'est du chômage dans le domaine forestier.
Et en plus, maintenant, ils veulent inciter, pour supposer raison écologique, à faire des bâtisses à charpente de bois dans le commercial et l'industriel.
Mm-hmm.
Moi, je vois des raisons économiques en arrière de ça, l'écologique, elle l'est pas.
L'écologique, si on avait une politique de gestion de la forêt, ça tiendrait, là, dans la mesure où, effectivement, le produire les poutres de bois fait moins de gaz à effet de serre que... T'sais, la production du béton, c'est polluant. Ça, c'est sûr.
Mm-hmm.
La production de l'acier, c'est intensément polluant. Mais le problème, c'est qu'il faut aller chercher le bois tellement loin... Puis il faut tellement tout scraper pour aller le chercher. Puis en plus, le bois qui est utilisé pour la construction, là, le bois construit, en fait, qu'on dit, c'est ça? Je me souviens plus.
Le bois d'œuvre,
c'est ça? Non, pas le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre, ça, c'est du bois qu'on prend tel quel. Le bois qu'ils utilisent dans les constructions, c'est avec des lamelles. Ils leur font avec de l'épinette noire.
Du contreplaqué.
Ben en fait c'est les nouveaux procédés de poutrelle puis de tu sais mettons si on regarde le nouvel édifice
de la CSN
c'est ça les madriers qu'ils utilisent c'est du bois qui est collé c'est un bon procédé si tu utilises du bois récupéré parce que justement t'as pas besoin d'avoir des morceaux énormes pour faire ça. Tout un paquet de petits morceaux agglomérés, collés ensemble, ça fait un gros madrier qui est aussi solide que si t'avais un arbre, mettons, de cette grosseur-là. Puis en plus, ben là, t'évites tout le gaspillage de soit le brûler, soit le laisser pourrir à quelque part ou quoi. Sauf que le problème, c'est quand tu utilises des arbres flambant neufs pour aller les coller pour le faire un gros madrier, ben flambant neuf parce qu'on s'entend qu'ils coupent à genre 20 ans quand leur potentiel est loin d'être atteint puis comme ils sont beaucoup trop petits de toute façon puis quand on fait des 2x4 avec ça ben ils sont juste pas beaux puis c'est pas pour rien que t'essaies d'avoir du bois moindrement de qualité ça existe plus au Québec parce qu'ils sont trop petits les arbres qui coupent puis effectivement faut aller les chercher trop loin mais en fait le point d'utiliser le bois c'est de fixer le carbone je pense c'est dans cette optique là de pas le brûler ou de pas le laisser pourrir dans le fond donc en tout cas mais effectivement c'est un nouvel incitatif de plus
ben ils sont en pays scandinave ça vaudrait la peine mais ici tant qu'il y aura pas de politique de sylviculture qui a du bon sens ça marchera pas c'est sinon on est loin des tarifs.
Oui, on est loin, mais on n'est pas si loin que ça quand même, parce que je veux dire, on aide tout le temps le même monde, on finit par on élimine toutes les taxes, toutes les sources de revenus possibles et imaginables qui peuvent être pris dans les poches de ceux-là qui ont finalement le plus de moyens. Ensuite, on a baissé les impôts des plus riches. On est rendu avec seulement 3 paliers d'impôts au Québec. Je veux dire, ça en est devenu presque absurde. Puis ouais, tu voulais dire quelque chose?
Non, je vais attendre.
OK.
Oui, mais le tout se conclut avec un Jean Charest qui dit pas « j'ai éliminé toute la colonne de revenus », il dit « j'ai la colonne de dépenses devant moi, là, puis salaire des fonctionnaires, c'est 60%.
» Ouais, ben le salaire des fonctionnaires, je veux dire, c'est pas vrai que c'est les fonctionnaires au Québec qui gagnent le plus, c'est même très loin de ce que ça peut être au fédéral. Je porte pas nécessairement de jugement sur quoi de faire le travail ou le niveau salarial et tout, mais comme ça fait très longtemps qu'au Québec, il y a des reculs dans le domaine de la fonction publique, d'un salaire puis tout, puis c'est loin d'être vrai que les conditions sont extrêmement avantageuses par rapport au secteur privé, là. Juste à aller voir dans le milieu des hôpitaux ou dans à peu près n'importe quel milieu, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la fonction publique. Les gens, ils sont presque plus, il y a presque plus d'incitatif à rentrer là, de toute manière. En tout cas. Mais c'était pas exactement là que je m'en allais avec tout ça, mais je veux dire, là, c'est ça. Comme tu disais, le choc des revenus, le choc des dépenses, ben, le fameux choc tarifaire, là, qui fit plus, là, que ça marche plus, il va falloir qu'on paye tout de notre poche. Mais comme c'est exactement de là qu'il vient. Puis, je veux dire, là, on sort de comme ne serait-ce que le petit baume qu'il pouvait avoir sur pour calmer les inégalités sociales, puis bon, regarde, on croit pas ici, je pense personne, que c'est l'État qui est la solution pour régler les inégalités sociales puis rendre une société plus juste, équitable, égalitaire, mais surtout pas sous le capitalisme. Mais il reste que, comme dans le contexte actuel, toutes une des seules mesures en place, ben comme c'est l'imposition d'un impôt progressif puis jumelé à des programmes de redistribution qui est capable d'amener une aide quelconque là-dedans, puis...
Ben, c'est justement, c'est un enjeu qui, c'est une question qui est pas remise en débat, mais lors des avant-dernières élections, Charest a baissé les impôts d'un milliard.
Mm-hmm. Puis
Harper a baissé la TPS et ils ont pas occupé le champ fiscal. Et là, on se retrouve dans une situation où, ben, tu sais, ça fait au moins 20 ans qu'ils baissent les impôts, là.
Mm-hmm.
On s'entend, là, c'est comme un après l'autre, là, les vallées verdoyantes des baisses d'impôts de Landry, là.
Mm-hmm.
Et là, on se retrouve avec des tarifs, mais ce qu'ils disent pas, c'est ce qui est quand même assez paradoxal dans tout ça, tu sais, que ce soit la question des frais de scolarité au cégep ou des différentes hausses de tarifs, de fait, malgré tout ce qu'ils peuvent en dire, c'est que c'est une attaque directe contre la classe moyenne.
Contre la classe moyenne, contre la classe plus pauvre, parce que, je veux dire, les moyens financiers dont tu disposes augmentent pas, tandis que les tarifs augmentent, puis les gens qui ont les moyens de payer plus de tarifs, ben, c'est les gens qui ont profité des baisses d'impôts, qui ont anyway un revenu plus élevé et comme...
Okay, c'est une redistribution de la richesse par le haut.
Exactement. C'est exactement ça. Puis comme, là, on arrive, puis on dit que c'est les personnes les plus vulnérables qui profitent du système, qui abusent de tout ça, qui cherchent, mais comme, on se pose pas la question de comme, à quoi ils servent ces mesures sociales-là à l'origine, tu sais? Ils servaient justement à aider ces personnes-là. Puis c'est encore le but qu'ils sont supposés rechercher, parce que, je veux dire,
C'est de la solidarité sociale.
C'est de la solidarité sociale, puis comme, tu sais, si le système de santé était gratuit à l'origine, ben, ça n'a pas été pour aider les riches tant que pour aider les gens qui n'en avaient pas les moyens. Même chose pour le système d'éducation. Puis on pourrait faire le tour des programmes sociaux comme ça, puis c'est le cas pour tout. Mais comme,
en fait, juste en santé, les gens ont la mémoire très courte, parce que juste avant le système qu'il soit accessible, puis tout, les gens crevaient chez eux carrément, n'avaient pas accès aux médecins, puis tout. Mais aujourd'hui, dis ça à un X ou à n'importe quelle autre génération plus jeune, là, ça sera pas de même, les assurances, c'est plus comme avant, c'est pire qu'avant, ils connaissent encore plus la machine.
Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est juste mettre en évidence, finalement, que le rôle de l'État dans tout ça, ben, comme il est pas du côté des gens, puis il est pas du côté, il est pas de notre bord, finalement, il est du côté vraiment de ceux-là qui ont le pouvoir dans leurs mains, puis qui vont continuer à l'avoir.
Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est la riposte à tout ça.
Oui,
on a vu des communiqués sortir et tout, sauf que ce qui est très embêtant, c'est que les organisations qui ont le plus de mordant sur ces questions-là et qui sont les plus fortes, en dehors des associations de consommateurs, des associations de payeurs de taxes et tout, c'est les centrales syndicales.
Mm-hmm.
D'habitude, c'est elles qui sortent le plus raide sur des questions de tarifs, puis entre autres pour la défense du service public, puis
ce qui est déjà le cas, là, la sortie la plus virulente que j'ai vue à date, c'est Claudette Carbonneau.
Ouais, sauf qu'ils ont décidé, en fait, qu'ils mèneraient pas la bataille.
Ouais.
Parce que ils ont les négociations de secteur public.
Mm-hmm.
Et ils vont sortir de façon virulente dans les médias, mais ils iront pas beaucoup plus loin, parce que l'enjeu central pour eux, c'est de pas passer dans le tordeur aux négociations du secteur public. Et c'est vraiment là-dessus. Fait que je sais pas trop comment est-ce qu'on va s'en tirer à ce niveau-là. Surtout que là, on vient d'entendre que notre cher, le nouveau Golden Boy du PQ était pour les hausses de tarifs, là, Marceau.
Ouais, est-ce vraiment étonnant, là, je veux dire.
Non, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est comme le Parti québécois est d'accord, le Parti libéral est d'accord.
Puis l'ADQ est d'accord.
Puis l'ADQ est d'accord. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, là, je veux dire.
Non, techniquement, l'ADQ est pas d'accord. Ils disent de couper à place d'augmenter.
Là, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils voulaient que ce soit les deux, mais qu'ils voulaient qu'ils commencent par couper,
ouais,
puis ensuite augmenter.
D'aller. Après, on verra.
Ouais, c'est ça.
Mais en tout cas, c'est ça. Couper long d'un baisse d'impôt.
Oui, effectivement.
Ouais, techniquement non, mais bon. Moi, payer de l'impôt pour engraisser le gouvernement, ça n'a jamais été ma force. Puis on s'entend que le seul portefeuille qui gonfle depuis des années, ben c'est la paye des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et des élus.
Des politiciens, ouais.
Ben c'est eux qui ramassent de plus en plus de cash. C'est le gros lot être élu au Québec, là.
Ouais, c'est encore drôle. C'est encore plus beau d'être dirigeants d'entreprise.
Ouais, mais là, il y a une obligation de rendement pour eux. Il n'y en a pas au gouvernement.
Oh, il n'y a plus ça, des obligations de rendement. Ils ont des primes pareilles.
Oui. C'est un rendement qu'on connaît pas. Non, c'est ça. On comprend pas ce rendement-là. Mais bon, nous, on va aller d'un rendement musical. On va aller avec un band de Montréal, avec un chanteur qui œuvre dans Esclaves Salariés, le band préféré de Nicolas. Mais bon, dans un tout autre registre de musique, Soul and Spirit avec Dans les banlieues.
Y'a trop nerveux à la vue d'un policier. Ils ont voulu faver, ils ont voulu crier. Et ceux qui se défendaient, c'est la prison qui les attendait. La menace s'installe et la rivalité s'exprime. Mais deux guerriers qui parlent quand c'est dans les débats qui priment. Un grand nombre veut partir, veut quitter ce quartier. La haine dans les banlieues, c'est celle du calme de l'édité.
Toujours à voix de fait sur les ondes de CKL 88.3 à Québec et nous sommes dans le moment des retours.
Ça, la semaine passée, on parlait d'une vague de suicides chez les employés de France Télécom. Ben, il y en a eu un autre cette semaine. C'est un salarié de l'entreprise qui travaillait dans une centrale d'appel à NSC, c'est l'Est de la France, qui s'est jeté de viaduc, qui s'est tombé une autoroute sur son lundi, 28 septembre. Puis dans la lettre de suicide de sa femme, il expliquait que c'était son climat de travail qui était propice au passage à l'acte.
Ouais, non, c'est vraiment pas jojo.
On rappelle que depuis février 2008, il y a 24 personnes qui travaillaient au sein de France Télécom qui se sont enlevées la vie, puis on compte aussi un grand nombre de suicides. Mais par rapport au nombre de suicides, le nombre, il n'y a pas de chiffre qui est donné.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, actuellement, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été licenciées, pas juste chez France Télécom, évidemment, mais dans l'ensemble des secteurs. Et il y a de plus en plus de gens, en fait, qui vivent des situations comme ça. Il y a aussi des cadres chez Renault qui se tirent, semble-t-il. Mais il y a aussi des alternatives. Entre autres, le 17 septembre, les salariés du secteur de l'automobile ont organisé une manifestation conjointe. Il y a quand même 3000 personnes qui sont rentrées dans l'édifice de la Bourse. En dessous, puis se pitcher par les fenêtres. Des fois, il y a des choix qui peuvent se faire. Des fois, il n'y a pas de possibilité de lutte collective. Des fois, il y en a, et quand il y en a, c'est...
Les syndicats, ils ont vivement réagi là, à ce suicide-là, en dénonçant les conditions de travail. On s'en fait téléphonique de la gravation d'Annecy. Ils disaient qu'ils travaillaient sur un plateau qui était connu depuis longtemps pour être invivable. Il y avait une vraie indifférence. Aucune humanité. On parlait que de chiffres, les salariés étaient de la chair à pâté.
Ouch. Ça va pour ça?
Oui.
Autre suivi, la semaine dernière encore, on se demandait si les autres syndicats présents dans l'enseignement, la Fédération autonome de l'enseignement, la Fédération nationale des enseignants du Québec, allaient emboîter le pas à la Centrale des syndicats du Québec qui, on l'annonçait, lançait une campagne contre le recrutement militaire dans les écoles. Ben, on a eu notre réponse dimanche et ben, c'est oui. Il y a une coalition pour freiner le recrutement militaire dans les institutions scolaires québécoises qui a été créée. Et ils ont annoncé en conférence de presse, dimanche à Montréal. En fait, c'est le Centre des ressources sur la non-violence qui était à l'initiative, ou en tout cas qui appuyait très fortement la campagne Opération Objection, dont on avait déjà parlé là dans les cégeps et les universités. Donc, le Centre s'est allié à la Centrale des syndicats du Québec, à la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, à l'Association pour une solidarité syndicale étudiante et à la Fédération étudiante collégiale du Québec pour dénoncer les pratiques de recrutement de l'armée canadienne dans les écoles secondaires, les cégeps et les universités du Québec. Alors, selon les représentants de la coalition, on a affaire en ce moment à la plus ambitieuse campagne de recrutement de l'armée canadienne depuis la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ce qui est en cours actuellement, le but, c'est de recruter la jeunesse pour augmenter la taille de l'armée de 20% sur 5 ans. Va augmenter la capacité opérationnelle de l'armée canadienne et donc augmenter le, non seulement combler les départs à la retraite, mais aussi augmenter l'effectif de 20%. Donc, ça implique donc un recrutement intensif. Campagne qui est motivée par la guerre en Afghanistan, selon la coalition, une guerre qui est illégale en vertu du droit international. Donc, la guerre est menée contre la volonté de la population canadienne et québécoise et, ironiquement, les organisations soulignent que la démocratie que nos militaires prétendent vouloir implanter en Afghanistan fait tout à fait défaut ici même et il est totalement inapproprié de permettre que les établissements d'enseignement soient exploités par l'armée canadienne pour faire la promotion de l'engagement dans un tel conflit. Ça, c'était Micheline Thibodeau, la vice-présidente de la FNEC-CSN, qui disait ça. Et ce qui est scandaleux, selon la FEC, la Fédération étudiante collégiale du Québec, Xavier Lefebvre-Boucher, ci-devant président de la FEC. Ce qui est scandaleux, c'est que l'armée canadienne profite de la situation précaire de certains étudiants pour atteindre leurs objectifs de recrutement. Et la FEC a fait des calculs et il semble que la carrière militaire pourrait apparaître particulièrement attirante pour les 6 à 13 000 étudiants qui auront plus accès à l'éducation universitaire à la fin du dégel des frais de scolarité. On calcule que les hausses de frais, ça va amener à peu près 13 000 étudiants potentiels à ne pas poursuivre au niveau de entre 6 et 13 000. Et donc, il faut rappeler que l'armée canadienne finance jusqu'à 50% des frais de scolarité pour les réservistes et 100% pour les forces régulières. Pour ceux, en fait, l'ennui, c'est que quand t'adhères, tu le sais pas si tu vas l'avoir. Tu sais pas si tu vas réussir à faire l'école d'officier, c'est pas automatique.
Ah, okay.
Et tu sais pas dans quel secteur tu vas aller faire tes études universitaires, parce que tu sais, il y a quand même un collège d'officier et tout. Mm-hmm. Mais c'est un des arguments de vente très importants de l'armée. Les recruteurs tentent de profiter de l'augmentation des frais de scolarité pour offrir une éducation subventionnée aux étudiants qui croulent sous les dettes. Et justement, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, pour eux, s'oppose au recrutement militaire dans les établissements d'enseignement. C'est un moyen de manifester l'opposition étudiante au déséquilibre des ressources entre les secteurs de l'éducation et de la guerre. L'éducation doit être accessible à tous et personne ne devrait avoir à s'enrôler dans l'armée pour pouvoir étudier. Nous revendiquons du financement pour l'éducation, pas pour les guerres d'occupation. Ça, c'était Alex Desrochers, le secrétaire aux relations internes de l'AC. Donc, les membres de la coalition s'engagent tout au long de l'année scolaire à alimenter dans leur milieu une campagne d'opposition au recrutement que mène actuellement l'armée canadienne. C'est donc un dossier à suivre. Il y a la CSQ qui distribue des tracts, qui organise des activités pédagogiques. Il y a aussi des actions, des perturbations de kiosques militaires dans les différentes institutions. C'est rendu même, en fait, que... écoute, tu vas aux galeries de la capitale, puis à l'entrée des manèges, t'as un kiosque de recrutement. Là.
Ouais.
C'est quand même quelque chose.
Pourquoi risquer ta vie dans ces vieux manèges quand l'armée t'attend?
C'est ça. Voilà. Non, mais c'est complètement hallucinant. Là. Je veux dire, la fin de semaine dernière, il y avait aux galeries de la capitale 2 kiosques, 3 kiosques de l'armée, en fait. C'était...
C'était ils sont là en permanence, il me semble que.
C'est pas sûr qu'ils sont là en permanence.
Il y a un mois, ils étaient là ou quelque
chose. C'était-tu dans les manèges qui ciblaient 6 à 12 ans?
Je sais pas.
D'après moi, ils devraient commencer là.
C'est un de nos informateurs qui disait ça. Mais en fait, ils commencent dès 12 ans, hein, parce que tu vois, les enseignants de la Confédération des syndicats du Québec, quand ils ont fait le débat dans leurs assemblées générales, ils ont dit ouais, OK, on est contre la militarisation des institutions, on le fait sur une base pacifiste parce que le programme des écoles vertes Brundtland, puis tout ça, c'est pas nos valeurs. Tu dis, bon, maintenant c'est beau ça, l'armée ça va bien, on les sort dehors. Mais les cadets, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Et eux, ils ont décidé qu'ils sortaient les cadets aussi.
Ah, c'est bon, parce que...
Ils veulent sortir les cadets des écoles secondaires parce qu'ils disent que, regarde, si à 12 ans, t'es un cadet, puis qu'à 16 ans, t'as le droit de rentrer dans l'armée.
Ça va être pas pire, tu sais. Pas pire. Bientôt, ils vont faire le tour des hôpitaux, là, des centres d'accouchement. Madame, vous venez d'accoucher?
mais le programme de recrutement de l'armée, c'est ça, là, ça commence à 12 ans. En tout cas, bon, fait que c'est ce qui met fin à ce micro-là. On a de la musique, puis on va revenir avec des plugs, dont notamment une très importante manifestation pro-choix qui va avoir lieu dimanche. On en parle tout de suite après cette courte pause musicale.
Oui, les neurones en folie qui vous chantent manifestation, d'ailleurs.
Et voilà, c'est l'heure des plugs de voix de fait. On va commencer avec une manifestation contre le gouvernement.
Ouais, ben contre le gouvernement finalement, parce que c'est eux autres qui veulent passer les lois sur la gouvernance.
La gouvernance,
oui,
c'est pas la même chose.
Ça se ressemble quand même, parce que on s'entend que c'est le même monde. Là, en fait, c'est les projets de loi 38 et 44. Je crois qu'on en a déjà parlé ici avec les gens de la CIC qui étaient venus nous visiter l'année dernière. C'est ça, là, les audiences, la commission
parlementaire, le temps en cours vient de terminer, je sais pas trop. trop, là.
Puis,
je pense que c'est terminé.
OK. Bon, ben, en fait, c'est ça. Là, Lassé a présenté son mémoire et, comme, clairement, fait signifier son opposition à ça, tout comme tous les syndicats d'enseignement et toutes les autres fédérations étudiantes, etc.
Même la conférence des recteurs est contre.
Oui, effectivement. Ben, ça leur enlève quand même un certain pouvoir, bien que les membres externes soient généralement de leur avis plutôt que de l'avis de n'importe qui d'autre, là, parce qu'ils lisent jamais leurs papiers. En tout cas, bref, c'est surtout une plug pour dire que demain, ben en fait, c'est jeudi, là, pour les gens en reprise, désolé, vous êtes trop tard. L'autobus part à 9h de l'Université Laval. J'ai pas trop su.
Entre les deux tours.
Entre les deux tours, merveilleux.
Proche des deux tours, en tout cas.
Ouais, près du Deconinck, en tout cas.
C'est tout le temps en même place.
Ouais, c'est ça. Vous risquez de voir un autobus ou deux qui vont vous attendre là pour partir. Donc, la manifestation est à 12h30 au parc Émilie-Gamelin, au métro Berri-UQAM à Montréal. Donc, ben.
Est-ce que c'est juste Lassé qui l'organise?
Pour ce que j'en ai vu, il me semble que oui, mais je
c'est pas si clair que ça. Hein, clair tu parles d'une ça. Déclaration commune. Puis de...
Ben, je sais qu'il y avait une coalition avec justement la FNEC, la FRE.
Si vous voulez en savoir plus, ils ont mis sur pied un site web juste là-dessus. Ça s'appelle, ben, en fait, c'est le www.quigèreleducation.org.
Ou sinon, le www.asse-solidarité-sans-accent.qc.ca.
Voilà. Sinon, autre annonce qui nous concerne et qu'on considère très importante, dimanche le 4 octobre, pour la quatrième année consécutive, il va y avoir une vigile de la vie. C'est comme ça qu'on appelle ça?
Ouais, ça ressemble à ça.
En tout cas, une prière silencieuse par des pro-vie, des anti-choix, des anti-avortements, des chrétiens intégristes.
Des liberticides.
Des fous. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont devant le centre mère-enfant du CHUL, parce que c'est aussi une clinique d'avortement, le centre mère-enfant du CHUL. Et donc, ils vont, d'habitude, ils sont sur le terre-plein, ils organisent une manifestation silencieuse où ils brandissent des pancartes contre le droit à l'avortement, pancartes. Le type de pancarte qu'on s'imagine là, de ce genre de triste cire et voilà. Et depuis 3 ans en fait il y a des libertaires qui contre-manifestent. Alors notre collectif collectif Anarchiste la Nuit,
pas que des libertaires quand
ouais
même.
Mais c'est des libertaires qui l'organisent, le collectif Anarchiste la Nuit, avec Ainsi Squat-t-elle, l'émission féministe libertaire sur les ondes de Skyer, appelle en fait à une contre-manifestation. Et effectivement il y a aussi des camarades de Québec solidaire, de la CSN, des différentes personnes de différentes obédiences qui sont venues là, dans les dernières années. Cette année, c'est donc dimanche le 4 octobre à 13h devant le centre mère-enfant du CHUL. Ça, c'est à Place Laurier.
C'est face à Place Laurier, en fait.
C'est face à Place Laurier. Mmh. Et puis on considère que le contexte, l'année passée, le contexte était particulièrement alarmant avec le projet de loi C-484, les élections fédérales et tout. On se disait que, ouais, là, c'était vraiment le temps de manifester sur cette question-là. Sauf que le contexte n'est pas nécessairement beaucoup mieux en ce moment, là, dans la mesure où il n'y a pas eu d'avancée décisive des forces pro-choix depuis un an.
Puis c'est parce que le gouvernement conservateur est minoritaire qu'on n'en a pas entendu parler. On peut, en tout cas, n'en pas douter.
Les libéraux au Québec ont tenté de restreindre l'accès cet été. Ils ont reculé sur la question. Mais bon, en tout cas, c'est très important de réaffirmer le droit au libre choix, puis que c'est fondamental pour toutes les femmes et que, en fait, les gens doivent disposer librement de leur corps. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez lire l'appel à la manifestation, c'est sur notre blog, Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com. Et c'est un rendez-vous donc dimanche à 13h. Ça va durer jusqu'à 15h. Donc c'est une espèce de ligne de piquetage pour aller s'organiser pour que les intégristes ne soient pas seuls. Et je crois que j'ai encore le temps pour une dernière plug. La programmation du mois d'octobre, des mardis de l'anarchie, conférences, débats, discussions, films, ateliers et sorties. Ils ont maintenant un blog où on peut aller voir ça. Mais sinon, pour vous dire que le 6 octobre, donc mardi prochain, à 19h15, en fait, c'est marqué 19h15, là, mais ça les portes ouvrent à 19h, puis ça commence à 19h30. En fait, il y a une conférence sur le thème « Crève la démocratie ou la critique de l'autonomie politique ». Et en fait, ça va être une présentation des idées des communistes de gauche, dont Merde, j'oublie le nom de l'auteur. Enfin, on parle beaucoup de démocratie comme d'un idéal sociétaire. Parfois, on pourrait croire que par elle, tous les problèmes sociaux peuvent se résoudre. Mais qu'en est-il dans les faits? Théoriquement, la prise de décision du peuple par le peuple est un noble objectif. Mais le fait de créer une sphère décisionnelle autonome dite politique n'est-elle pas à l'origine de la domination et de l'État? Cette conférence a vu une exploration critique de la démocratie sous plusieurs facettes. À vous de juger si elle est pertinente. Donc, 6 octobre 19h15 à la JT, ça risque d'être un débat théorique de haute voltige, probablement fort intéressant. C'est ce qui met fin à cette édition de Voix de Fée. Je suis Nicolas.
En compagnie de Guillaume.
Jenny.
Et celui qui dit qu'on s'est pas plugué cette semaine. C'est quoi notre blog, Mister?
Je viens de te le dire.
Maudit, j'étais à la porte. Désolé.
Le blog du collectif, c'est Voix de Fée avec un X et un S point blogspot.com. Ceci dit, vous tapez Voix de Fée dans Google, puis on est les premiers à sortir.
Oh, on a grimpé. on va terminer.
Ça fait quand même un bout qu'on est les premiers à sortir.
Oh, c'est bon. Ça, on va terminer ça avec les partisans qui nous chantent mille couleurs. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Bonne semaine sur les ondes de votre station de radio préférée.